Jésus entra dans mon cœur, car Jésus entra dans mon cœur. Ce qui soit est un pas ineffable bonheur, car Jésus entra dans mon cœur.
Eh bien, c'est un peu mon témoignage quand j'ai dit.
Cette soirée du 17 août, nous avons compris que nous devions vous apporter un message qui serve en quelque sorte de charnière entre la semaine que nous venons de vivre et celle que nous avons commencée aujourd'hui. Le thème de nos rencontres du soir a été intitulé « À l'écoute du Fils de l'homme ». Si chaque matin nous évoquons dans une courte méditation un texte proclamant la seigneurie de Jésus, le Fils de l'homme, son grand pouvoir et la nécessité absolue de son règne pour la délivrance de toute la création qui a été assujettie à la vanité et qui soupire après ce moment où le Seigneur reviendra et la libérera de ce joug de la corruption qui pèse sur elle. Si chaque matin, donc, nous nous entretenons de cette nécessité du règne de Jésus, il faut qu'il règne, il faut qu'il y ait un changement, eh bien, chaque soir, nous nous mettons à l'écoute du Fils de l'homme et nous considérons l'un de ses droits, puisque le thème de 1980 pour le camp Mahanaïm était les droits du Fils de l'homme. Nous essayons de saisir quels sont ces droits. Alors la semaine dernière, dans nos premières rencontres, nous avons cherché à établir clairement l'identité de celui qui se faisait et qui aimait s'appeler le Fils de l'homme. Nous avons rappelé que plus de 80 fois dans les évangiles, Jésus s'est nommé lui-même le Fils de l'homme. Ce ne sont pas les disciples qui l'ont appelé le Fils de l'homme. C'est lui-même qui parlait de lui comme du Fils de l'homme. Et alors, cela répond à cette question que vous trouvez dans le chapitre 12 de Jean, que nous avons lu en partie vendredi soir, qui devait être l'ouverture de la deuxième session du camp Mahanaïm. La foule pose une question à Jésus, qui est ce Fils de l'homme? Qui est ce Fils de l'homme? On m'a dit que c'était peut-être difficile pour ceux qui venaient d'arriver de comprendre les messages que nous vous apportons. Alors je ne voudrais pas continuer de vous parler si vous ne comprenez pas De quoi il est question? Quand Jésus était sur la terre, entouré des foules, après 3 années de ministère, de prédication, de miracles de tout genre et de résurrection, les foules se demandaient encore qui était ce Fils de l'homme. On peut bien comprendre que vous aussi, vous posiez certaines questions. Qui est le Fils de l'homme? Nous avons cherché à établir clairement dans nos premières réunions l'identité de celui qui se nommait le Fils de l'homme. Et nous avons découvert que cette expression se trouve une première fois dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Daniel. Daniel a une vision. Et il voit s'avancer vers l'Ancien des Jours quelqu'un qui était semblable à un Fils de l'homme. Et c'est à lui que fut remis le pouvoir, la domination sur tous les royaumes de la terre. Et il est ajouté que son règne est un règne éternel qui ne doit jamais être détruit. Donc, Jésus s'est identifié lui-même à ce Fils de l'homme de la vision de Daniel. Et c'est pour avoir osé dire au souverain sacrificateur qui le jugeait et qui lui demandait « Es-tu le Fils de Dieu ?» C'est pour avoir osé dire, tu l'as dit, et même vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. C'est à cause de cela qu'il a été condamné à mort. Le souverain sacrificateur déchirant son vêtement et disant, il a blasphémé. Parce que pour les Juifs, ce Fils de l'homme du livre de Daniel, c'était le Messie. Jésus s'était donc proclamé le Messie, celui qu'attendaient les Juifs. Et le souverain sacrificateur le prend pour un blasphémateur et un imposteur, parce qu'on refusait de croire que Jésus était réellement celui que toutes les Écritures avaient promis. Donc, nous avons cherché dans nos premières rencontres à établir l'identité de celui qui s'appelait le Fils de l'homme. Et nous avons découvert qu'il n'était autre que le Fils de Dieu. Alors, s'il est le Fils de Dieu, nous comprenons qu'il a des droits sur nous. Et c'est ainsi que dans une soirée, nous nous sommes occupés du droit du Fils de l'homme à être aimé. Et pour quelle raison a-t-il le droit d'être aimé? Parce que lui a aimé le premier. Il nous a aimé le premier. Alors en réponse à son amour, il a droit que nous l'aimions et que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. L'aimez-vous ainsi? Si vous ne l'aimez pas ainsi, votre Dieu, eh bien vous êtes transgresseur du plus grand des commandements et vous êtes coupable du plus grand des péchés. Que tous ici, nous puissions être conscients de cela. Qu'est-ce qui peut nous donner la conviction que nous sommes des pécheurs? Est-ce que dans votre vie, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez reconnu que vous étiez un pécheur. Est-ce que vous reconnaissez ce soir, disiez toutes que vous êtes un pécheur, que vous êtes une pécheresse? Est-ce que c'est simplement parce que le catéchisme vous a dit la chose, vous a affirmé que tous les hommes sont pécheurs? Est-ce que vous reconnaissez que vous êtes pécheur parce qu'on vous l'a dit, parce que le catéchisme le dit, parce que la Bible le dit, ou bien est-ce que vous avez découvert que c'est vrai? Je ne peux pas donner une réponse, mais un jour, j'ai compris que c'était vrai pour moi. C'était en 1931, il y a donc bien longtemps, et j'ai été transpercé. Et je me suis vu perdu, non pas parce que j'avais tué, volé ou vécu déjà dans le péché, dans l'adultère, non. Mais tout à coup, j'ai compris que si le plus grand des commandements de Dieu était « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée », si je n'avais pas accompli ce commandement, si je ne vivais pas en harmonie avec cette volonté de Dieu qui veut être aimé, eh bien j'étais le plus grand des pécheurs. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que pour vous le plus grand des péchés c'est voler, c'est tuer, c'est commettre adultère? Parce qu'on entend toujours cela. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas commis adultère. Il faudrait encore voir. Hein? Parce que les hommes sont menteurs. Que Dieu soit vrai et tout homme menteur. Et puis encore, si c'est cela toute votre morale, elle est bien négative. Quand vous n'avez pas tué, vous n'avez pas encore aimé. Quand vous n'avez pas volé, vous n'avez pas encore donné. Et quand vous n'avez pas commis adultère, vous n'avez pas pour autant été toujours un saint dans vos pensées. Car quand Jésus dit que si l'on a regardé une femme pour la convoiter dans son cœur, on a déjà commis adultère avec elle, on n'est pas très à l'aise, en tout cas nous les hommes. Avez-vous une conviction de péché? Moi, la conviction de péché, je ne l'ai pas eue autrement. Je l'ai eue par cette révélation que le plus grand des commandements, c'est Jésus qui l'a dit, c'était d'aimer. Et je me suis rendu compte que je n'aimais pas Dieu. Je n'aimais pas Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. Et alors j'en ai frémi, mais pour quelle raison est-ce que je n'aime pas Dieu? Pourquoi est-ce que j'aime davantage le monde, les choses du monde? Mais pourquoi? Et j'ai été effrayé. Et je me suis dit, mais un jour, je vais le rencontrer, ce Dieu. Et la seule chose qu'il va me demander, c'est, m'as-tu aimé sur la terre? Et qu'est-ce que je pourrais dire? Je serais confus. Et alors là, je me suis vu perdu. Et j'ai passé au second commandement de Dieu, qui résume, si le premier résumait la table des droits de Dieu, aimer, le second résume les droits de l'homme, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la réalisation pratique et visible du premier commandement. Et là encore, je me suis dit, mais je n'aime pas mon prochain comme moi-même, ce n'est pas vrai. Je n'aime pas mon prochain comme moi-même. Et puis tout de suite, on se dit, mais qui est mon prochain? Qui est celui que je dois aimer comme moi-même? Alors prenez la parabole du bon samaritain et vous aurez la réponse. Celui que tu dois aimer comme toi-même, c'est justement celui que tu méprises. C'est ce samaritain qui te dépasse, tu te crois sauvé, tu te dis sauvé dans ce camp, peut-être. Tu penses que les autres ne le sont pas. Tu penses qu'il y a des samaritains ici, des gens qui sont plus ou moins païens, plus ou moins idolâtres, mais que toi tu es dans la vérité. Et puis justement, Dieu a quelque chose à te dire. Parce que celui que tu dis peut-être n'est pas sauvé, dans sa vie de tous les jours, il a beaucoup plus de miséricorde que toi pour les autres. C'est lui qui exécute la volonté de Dieu. Alors que toi, tu dis que tu connais Dieu, que tu lis ta Bible, et puis dans la vie de tous les jours, on ne voit pas ton amour pour le prochain. Mais tu es un sauvé. Alors voyez-vous, dans cette semaine, je crois que le Seigneur va nous parler. J'ai compris que malgré mon éducation chrétienne, malgré que j'étais un bon petit gars, comme on disait dans le village, j'étais perdu devant Dieu. Et que si je devais comparaître devant lui, ces deux premiers commandements, je ne les avais pas mis en pratique. Nous avons considéré ensuite un autre droit du Seigneur, le droit à l'obéissance, parce que lui a obéi. Il a droit à être aimé parce qu'il a aimé, il a droit à être obéi parce qu'il a obéi. Est-ce que nous obéissons à Dieu? Est-ce que nous suivons sa voie? Lui, il a obéi à son Père et il est allé jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Pour qui? Pour nous. Son obéissance l'a conduit à supporter toutes les souffrances, toutes les ignominies et à donner sa vie pour moi. Il a droit à ce que je lui obéisse. Est-ce que vous lui obéissez? Est-ce que Jésus, que vous dites être votre sauveur, est-ce que vous pouvez dire ce soir, Jésus est mon Seigneur? Maintenant, je le suis. Je suis ses traces. J'obéis à sa parole. Pour obéir à sa parole, il faut la connaître. Avoir la foi, c'est une vie d'obéissance, c'est pas autre chose. Croire, c'est obéir. Puis on a vu ensuite le droit de Jésus qu'il avait de son Père, de pardonner les péchés. Sur la terre, nous avons rencontré ce Fils de l'homme qui pouvait dire que Dieu lui avait donné sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et alors, combien c'est réconfortant. Est-ce que vos péchés sont pardonnés? Est-ce que ce soir, 17 août, vous pouvez dire que maintenant la question de vos péchés est réglée? Quand Jésus-Christ, vous avez découvert celui qui avait le pouvoir de pardonner vos péchés. Et celui qui, nous ayant pardonné nos péchés, nous demande de pardonner aux autres. Droit de pardonner. Mais aussi, demande de pardonner aux autres. Nous avons aussi considéré que le Fils de l'homme avait sur la terre le droit de juger. Quand il reviendra, nous apprenons que Dieu a remis tout jugement au Fils. C'est lui qui aura le droit de juger les hommes de toute catégorie parce qu'il a été Fils de l'homme. Et parce qu'il a donné sa vie pour tous les hommes, alors lui seul a été établi juge des vivants et des morts. Enfin, nous résumons tout cela, car nous avons découvert qu'au fond, le Seigneur avait tous les droits. Parce qu'il était le maître du sabbat. Le Seigneur n'a pas seulement droit à ceci, droit à cela, il a au fond tous les droits. Et je vous demande ce soir, a-t-il tous les droits sur vous? Alors, avant d'aller plus loin, j'ai compris que je devais revenir simplement au texte que je vous ai lu vendredi soir, dans le chapitre 12 de l'évangile de Jean. Et cela pour la bonne raison que la plupart de ceux qui devaient être avec nous dès ce vendredi soir, qui était l'ouverture du camp, n'étaient pas là et ne sont arrivés que le samedi. Alors je relis ce texte. Et je vais vous laisser ce soir simplement avec ces paroles. Verset 20 du chapitre 12 de Jean.
Seigneur, nous venons te demander ton aide. Nous venons te demander ton secours. Et que tu paralyses ces puissances spirituelles de méchanceté que nous avons ressenties aujourd'hui et qui voudraient détruire le bien que tu as fait dans les âmes. Nous voulons proclamer ta victoire et nous abandonner entièrement aux ressources de ton esprit, afin que Jésus soit glorifié. Amen.
Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec insistance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Et vendredi soir, avant la réunion, quand je me tenais devant Dieu, le Seigneur m'a fait entendre que je devais donner cette parole pour les nouveaux campeurs qui se joignaient à nous. Qu'ils étaient un peu semblables à ces Grecs et qui, étant venu pour adorer à Jérusalem, cherchait à voir Jésus. Je pense que vous n'êtes pas venu dans ce camp pour une autre raison. Vous aussi, vous avez ce besoin de voir Jésus. Est-ce que je me trompe? Dans cette semaine, est-ce que nous verrons Jésus? Et nous avons vu que les Grecs se sont approchés des disciples de Jésus, et en particulier de Philippe. Et que Philippe a transmis la demande des Grecs à André, et qu'ensuite Philippe et André sont allés le dire à Jésus. Et nous disions ceci, c'est qu'au fond, les nouveaux arrivés allaient peut-être un peu questionner ceux qui étaient là dans la première semaine et qui allaient rester pour la seconde semaine, les questionner sur ce qu'ils avaient entendu, savoir si vraiment ils avaient vu quelque chose du Seigneur dans ce camp où nous avions dit, pour l'arrivée des premiers campeurs, au début du camp, vous avez bien fait de venir. Nous sommes maintenant tous devant Dieu pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Et ensuite, nous avons parlé de la réponse de Jésus. Et cela, je crois qu'il est en train de le réaliser, même au sein de cette immense faiblesse où nous sommes ce soir. Jésus, quand il a entendu cette demande des Grecs, a répondu ceci, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Et nous avons pensé que dans cette semaine particulièrement, le Seigneur allait être glorifié. Le croyez-vous? C'était l'heure. Et que non seulement c'était l'heure dans le camp Mahanaïm 80, mais que c'était l'heure pour le Québec d'être glorifié. Jésus, en tant que des Grecs, donc pas des gens du peuple juif, mais de ces gens éloignés, de ces païens, désire le voir. Et son cœur frémit. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et maintenant, des gens d'ailleurs le recherchent. Oh, s'il y avait parmi nous des cœurs qui le recherchent vraiment. Que ceux qui se disent sauvés ne soient pas des obstacles au salut de ceux qui sont venus ici et que certains qualifient peut-être de gens qui ne sont pas sauvés, que ce langage disparaisse du milieu de nous et que ceux qui désirent voir Jésus, qui sont venus ici en désirant voir Jésus, puissent le rencontrer et qu'il n'y ait pas entre Jésus et leur cœur de ces pharisiens, de ces sauvés évangéliques qui font obstruction et qui les éloignent de la personne du Seigneur par leur prétention et par leur orgueil. Que nous puissions diminuer, que nous puissions disparaître et qu'enfin Jésus soit vu. Et si c'était moi qui serais l'obstacle à la bénédiction, je demande au Seigneur qu'il me retranche, qu'il me fasse disparaître. Parce que c'est lui qui doit être vu et non pas un homme. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et alors, comprenez-vous ce qu'il dit ensuite? Comment va-t-il être glorifié, le Fils de l'homme? Comment est-ce que ces Grecs pourront être sauvés? Et Jésus apprend que l'heure est venue pour lui de mourir. Car les Grecs, comme les Juifs aussi, ne peuvent être sauvés que si lui meurt. Comment le Fils de l'homme pourra-t-il être glorifié? Eh bien, en acceptant maintenant d'aller jusqu'au bout dans sa mission. Et nos amis qui ont été baptisés ont illustré en quelque sorte ce verset. Cette nécessité que souligne Jésus. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui est le grain de blé? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui souligne, bien pour que le Fils de l'homme soit glorifié, il faut d'abord qu'il meure. Et c'est pour cela qu'il a pris un corps de chair, comme nous l'avons vu ce matin, sinon Jésus n'aurait pas pu mourir. Le Fils de l'homme n'aurait pas pu mourir, mais il a pris un corps d'homme pour pouvoir mourir. Fils de Dieu, de toute éternité, il était impossible qu'il meure. Et c'est justement ce qui faisait obstacle à la foi des Juifs, parce que leur Messie qu'ils attendaient, ils pensaient qu'il ne devait pas mourir, que ce Messie était un être qui devait vivre éternellement. Et Jésus soulignait que le Fils de l'homme allait être élevé, et on savait bien ce que ça voulait dire, il allait être crucifié. Alors ils étaient scandalisés, et c'est pourquoi Jésus souligne ceci. En vérité, je vous le dis,
Si le grain tombant en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si vous compreniez seulement cela ce soir, ce serait bien suffisant. Est-ce que vous croyez que c'est vrai l'image que Jésus donne? Prenez un grain de blé, un beau grain de blé, hein. Mettez-le dans un écrin, un bel écrin, bleu, aux couleurs du Québec. Puis, vous le mettez là, dans votre maison. Dans un mois, ouvrez l'écrin. Que verrez-vous? Un beau grain de blé. Dans 6 mois, ouvrez l'écrin. Que verrez-vous? Un beau grain de blé. Dans 2 ans, ouvrez l'écrin. Que verrez-vous? Un beau grain de blé. Dans 10 ans, ouvrez l'écrin. Un beau grain de blé. Il est tellement beau. Vous devez enlever seulement la poussière. Puis vous le remettez en place. Vous soignez votre grain de blé. Vous devenez riche. Au lieu de cela, votre grain de blé, vous le mettez en terre. Qu'est-ce qui se produit? On ne le voit plus. Quand on accepte de le mettre en terre, il faut accepter de ne plus le voir. Vous n'allez plus le voir pendant un temps. Il va disparaître à votre vue. Mais qu'est-ce qui va se produire? Il va germer. Et finalement, cette terre qui était bien aplatie va se craqueler et puis on verra une petite tige. Il va germer et produire du fruit. Un épi va se montrer et ce seul grain de blé en produira 30, 60 ou 100. C'est pas merveilleux? Alors Jésus veut leur dire, si moi je reste en vie, il y aura qu'un Jésus, il n'y aura qu'une vie de Jésus. Mais si moi j'accepte de donner ma vie, qu'est-ce qui sera produit par ma mort? Exactement ce qui est produit par un grain de blé. Il y a d'autres vies qui vont germer de ma mort et il y aura finalement une moisson. C'est merveilleux cette image. Il y aura une moisson. Mais ce n'est pas seulement vrai pour Jésus, c'est vrai maintenant pour nous autres. Et nos frères qui ont passé dans les eaux du baptême, ils ont accepté justement de vivre cette mort. Et alors, nous allons en voir les fruits. Nous sommes assurés de cela. Voyez le développement de Jésus, verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suit, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Puis tout à coup, après avoir montré que si on veut connaître vraiment cette vie éternelle, il faut le suivre, et le suivre dans sa propre mort, pour connaître ensuite sa vie de résurrection, Jésus dit, maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. L'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié, c'est quelle heure? C'est l'heure de sa mort. C'est dans sa mort, mes bien-aimés, que le Seigneur sera glorifié.
parce que justement, lui qui avait la seule vie qui ne méritait pas la mort et qui ne devait pas mourir, cette vie, il allait la donner. Et il comprend que maintenant, c'est fini sa prédication. L'heure est venue non plus de prêcher, mais de mourir. Quand même, devant ce fait, il frémit. Père, délivre-moi de cette heure. Mais en même temps, il ajoute, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Il est venu pour mourir. C'était dans son programme. Alors il dit, Père, glorifie ton nom. Et à ce moment-là, on entend du haut du ciel une voix qui dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. C'est pour la troisième fois que l'Évangile nous rapporte qu'on a entendu une voix du ciel. La première fois, c'était au baptême de Jean. Quand Jésus sort de l'eau, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend sous une forme corporelle et se pose sur Jésus, et l'on entend cette parole, c'est mon Fils bien-aimé, en qui je mets tout mon plaisir. Puis une seconde fois, sur la Sainte Montagne, alors qu'il est avec trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, sous la nuit glorieuse qui les recouvre après la disparition d'Élie et de Moïse, une voix se fait entendre, c'est mon Fils élu. Écoutez-le. Et maintenant, une troisième fois, dans la proximité immédiate de son arrestation et de sa mort, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Alors la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Qui est le prince de ce monde? C'est Satan. Donc, dans la mort de Jésus, Satan sera vaincu. C'est là que se réalisera la promesse qui était faite au premier couple déchu, à Adam et Ève. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent, mais le serpent réussira à blesser la postérité de la femme au talon. C'est-à-dire que le Messie sera atteint dans la partie la plus basse de son être, dans son humanité. Mais c'est justement lorsqu'il connaîtra cette blessure, c'est-à-dire lorsqu'il mourra en croix, que le Seigneur, en entrant dans la mort, vaincra la mort et vaincra celui qui avait la puissance de la mort, Satan. Et alors il ajoute, verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Est-ce que vous comprenez ce verset? Quand j'aurai été élevé de la terre, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je serai? Oui, aussi dans la gloire. Mais d'abord, la première élévation, c'est l'élévation sur la croix. Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, verset 33, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Donc, ce n'était pas d'abord de son élévation dans la gloire, quand je serai élevé de la terre. C'est de son élévation sur une croix. Vous voyez comme vous devez lire la Bible. Quand vous ne comprenez pas un verset, allez plus loin. Moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? En parlant ainsi, Jésus indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que
le Fils de l'homme soit élevé. Qui est ce Fils de l'homme? Voilà la question. Est-ce que vous le savez, vous, qui est ce Fils de l'homme? Qui a été élevé? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Et c'est peut-être vrai aussi, dans ce camp. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Est-ce que vous marchez dans la lumière? Est-ce que vous savez où vous allez? Ou bien est-ce que vous êtes encore de ceux qui ne savent pas ce qui va se passer? Est-ce que Jésus est pour vous la lumière de votre vie? Est-ce qu'il y a de la lumière dans votre vie? Ou bien est-ce que vous êtes encore dans les ténèbres? C'est des questions auxquelles moi je ne peux pas répondre pour vous, mais vous, vous pouvez répondre. Est-ce que vous savez où vous allez? Si vous deviez mourir ce soir, est-ce que vous savez où vous iriez? Est-ce que vous avez des doutes ou est-ce que vous avez une assurance pleine et entière? Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Est-ce qu'il n'y en a pas ce soir qui veulent croire après avoir vu ce qu'ils ont vu? Là, au bord du lac, alors qu'il y avait encore de la lumière, avant qu'elle soit venue, ces ténèbres qui sont là, les ténèbres sont venues. Il y avait avant de la lumière, mais maintenant il n'y a plus de lumière. Ce sont les ténèbres dehors. Mais nous avons connu la lumière, nous avons vu la lumière. Pendant que la lumière est là, est-ce que vous venez à la lumière? Ou bien est-ce que vous attendrez que les ténèbres viennent? Parce que les ténèbres viennent sur ce monde. Ténèbres de l'incrédulité. Ténèbres de la haine. Ténèbres de la violence. Pendant que vous avez la lumière, croyez dans la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Est-ce que vous êtes des enfants de lumière? Est-ce que je suis un enfant de lumière? Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha point. Mes amis, vous voudriez ça ce soir? Vous avez vu Jésus. Vous l'avez vu dans sa manifestation. L'heure de sa glorification, c'était l'heure de sa mort. Et le Seigneur vous a donné dans votre vie l'occasion de voir comment Dieu peut être glorifié. Voulez-vous que le Québec change? Il y a une moisson à faire au Québec. Il y a peu de moissonneurs. Jésus disait, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Et qu'est-ce qu'il disait ensuite? Mais non. Il disait, retroussez vos manches. Faites des efforts. Mettez-vous à l'ouvrage pour rentrer des gerbes. Nouvelle version. Revue et corrigée. C'est ça qu'il disait. Travaillez, moissonnez. C'est ça qu'il disait. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Priez. Le maître de la moisson, afin qu'il suscite, qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Qui est-ce qui va faire le travail? Le Seigneur. Par quel moyen? Par des hommes et des femmes qui s'engagent pour lui et que lui a choisi, que lui consacre et que lui conduira. Où il voudra, comme il voudra, avec toute sa puissance. Mais ces hommes et ces femmes doivent d'abord accepter de passer par où Jésus a passé, être identifié avec lui dans sa mort. Et c'est après cette identification que tous les fruits seront manifestés. Je m'arrête. Frères et sœurs, nous devons prier ce soir pour que réellement nous acceptions d'être de ces grains de blé livrés au Seigneur et qui, comme le Seigneur, tombe en terre, accepte cette mort à eux-mêmes pour que Dieu puisse produire dans ce renoncement à eux-mêmes ce fruit béni 30, 60 et 100 autres vies pour le Seigneur. Francine, Jocelyn, Noël, et vous qui avez été immergés aussi hier soir, Nicole, Brigitte, Dominique, et vous aussi qui sentez que Dieu vous appelle, laissez-vous faire par le Seigneur. Comme Marie, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Voulons-nous nous abandonner à lui ce soir ? Avant qu'il ne s'en aille, restons dans la prière. Soyez libres de vous exprimer.